Débat, Africa Radio, BBC Afrique. Présenté par Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur nos deux radios partenaires. Une pensée hebdomadaire désormais pour ma collègue Liliane Yatcha de BBC Afrique, toujours en vacances, hein. Je sais qu'elle nous écoute. Elle sera de retour bientôt. Nous la saluons. Au sommaire de cette édition, le Bénin dans la tourmente. Au lendemain des élections législatives contestées du 28 avril dernier, la situation de crise se prolonge avec de nouveaux développements cette semaine. Une semaine marquée par des scènes d'émeutes dans la ville de Cotonou et une violente répression des forces de l'ordre. Comment sortir de cette crise inédite? Tentative de réponse dans cette édition avec nos invités. Autre sujet, l'Algérie où l'armée s'invite dans la crise par la voix du chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, qui décrète une opération anti-corruption en réponse au mouvement de contestation qui réclame toujours le départ de toutes les figures du système politique décrié. De ce mouvement peut-il s'accommoder? Des solutions diligentées par l'armée? Explication avec nos invités dans cette édition. Enfin, un regard sur l'état de la presse et des médias sur le continent à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée à Addis Abeba du 2 au 3 mai, l'occasion d'évaluer le rôle des médias dans la consolidation des acquis démocratiques en Afrique. Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone avec nous depuis Cotonou, Joël Ataï Guédébé. Joël Ataï Guédébé, bonjour.
Bonjour Monsieur Laloupa, bonjour à vos auditeurs.
Joël Ataï Guédébé, expert en communication et gouvernance, président de l'association béninoise Nouvelle Éthique. Vous êtes membre de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias du Bénin. Vous avez été vice-président en 2007 de la Commission électorale nationale autonome du Bénin, la CENA, au sein de laquelle vous représentiez la société civile. Vous œuvrez d'ailleurs avec certaines coalitions de la société civile contre la corruption en faveur de la transparence des élections et pour la paix. Et à ce titre, vous avez été en 2010 le président du groupe spécial de travail ayant favorisé le dialogue politique sur les insuffisances du processus de la LEPI. La LEPI, c'est la liste électorale permanente informatisée. Chargé de plusieurs missions et rapports sur la gouvernance pour le NDI, le National Democratic Institute, l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international ou d'autres coopérations techniques européennes. Vous êtes le co-auteur avec l'historien Pierre Metroy d'un essai intitulé « Les crises électorales du Dahomey au Bénin, 1957-2011 ». Joël Ataï Guédébé, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Et notre confrère invité, qui nous rejoindra tout à l'heure, depuis Dakar, Alpha Bokar Khan, journaliste à iRadio, animateur de l'émission La valise diplomatique sur cette radio, et spécialiste des relations internationales. Voilà donc pour le plateau. Premier sujet donc, le Bénin. Quelle solution pour sortir de la crise en cours dans le pays ? Situation tendue hein, cette semaine au Bénin, où les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles ce jeudi sur des manifestants dans la ville de Cotonou. Bilan, au moins 2 morts et plusieurs blessés. Et à l'origine de ces incidents, des manifestations de protestation contre la présence des forces de l'ordre autour du domicile de l'ex-président Thomas Boni Yayi. C'est ce même jeudi que la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats des législatives du 28 avril dernier, où seuls étaient en compétition deux partis alliés au pouvoir. Quelles issues possibles à cette crise inédite hein, depuis l'avènement du renouveau démocratique 1990 au Bénin. Joël Ataï Guédébé, première question pour vous. Forcément, vous avez été l'un des porte-parole de la Chambre de situation électorale mise en place par la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin dans le cadre de ces élections législatives du 28 avril dernier. Quel était précisément le cahier des charges de cette plateforme dans ce contexte?
Merci, M. Laloupa. Je réitère mes salutations à vos auditeurs et je vous répondrai que la plateforme des OSC initialement aurait bien voulu observer le scrutin et par rapport à des indicateurs classiques, mais face aux difficultés, aux soubresauts du processus électoral en lui-même, la plateforme a choisi de recentrer sa mission autour de l'idée de monitoring et de la participation et des violences et au cours du dit processus. C'est en ça que, sous la bannière ou à travers le triptyque surveiller et rapporter et agir, la plateforme qui était organisée en trois chambres, une chambre technique, une chambre d'analyse des incidents et une chambre de réponse ou de décision, la dite plateforme donc, a essayé de traquer davantage les violences, les incidents les plus notables le jour du scrutin.
C'est ça.
Et à essayer également d'interagir avec le terrain, avec les décideurs, pour mitiger certaines de ces difficultés ou risques de débordement.
Vous avez observé plusieurs élections dans le pays, hein, au Bénin, Joël Lataï-Guelébé. Avant d'aller plus loin dans le débat, quel est votre sentiment, quel était votre sentiment au lendemain de ces élections, toutes particulières, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Tout à fait. Et dans le contexte du Bénin, et surtout du Bénin du renouveau démocratique à partir de 1990, c'est vraiment la première élection à la participation la plus faible, la plus la moins importante. Et donc ça, c'était absolument évident, dans la mesure où d'ailleurs la Cour constitutionnelle, qui a proclamé les résultats hier, a retenu un taux de 27% pendant que nous étions à 22,4%, sachant que nous avions exclu les bureaux qui n'avaient pas ouvert. Le fait est là, et surtout les violences et l'intensité des violences et leur caractère presque systématique dans certaines régions du Bénin. Et enfin, certainement, la retenue, sinon la forme de protestation, parce que nous sommes obligés d'interpréter comme ça, et la faible participation, donc la retenue des électeurs qui ont préféré rester chez eux en craignant probablement des violences, en craignant un fort déploiement militaire et autres. Voilà un peu ce que nous pouvons relever comme observation principale du jour du scrutin.
Jonathan Guelébé, est-ce que vous pensez aujourd'hui, hein, après ces élections, que ces élections justement sont conformes à l'esprit et à la lettre de la Constitution béninoise issue de la Conférence nationale de 1990?
Non, il est difficile d'être affirmatif, et même ceux qui étaient dans la compétition, ceux qui sont restés dans la compétition et qui sont proches du pouvoir, comme vous l'avez dit, en ont éprouvé la plus grande gêne, et a commencé probablement même par le chef de l'État qui, bien avant, au cours des rencontres qu'il a eues avec les différents parties prenantes, a dit son regret et que le processus soit contraint à se dérouler et progressivement, ou à se tenir sans une partie substantielle de la classe politique du Bénin. À partir de là, il y a forcément un goût amer à de telles consultations. Elles manquent. Elles peuvent être les plus légalistes qui soient, elles peuvent être les plus formelles qui soient. Mais le constat est là que forcément, il manquait à l'appel un certain nombre d'acteurs.
Vous l'avez dit.
Le choix en a été réduit pour les électeurs.
Vous l'avez dit, des élections marquées par un fort taux d'abstention. Alors, la commission électorale a parlé de 22,99% de taux de participation.
27.
Non, dans un premier temps.
Pour moi, vous avez raison.
Dans un premier temps, 22,99%, près de 23% de participation. Et ce jeudi, la Cour constitutionnelle a évalué la participation à 27%. Surtout, ma question était celle-ci, Joël Lataï-Guelébé. Quelle interprétation politique faites-vous de cette forte abstention? C'est un verdict, une sanction populaire?
Il serait difficile d'avoir une explication univoque. Beaucoup de raisons y sont mêlées. Déjà au Bénin, on ne fait pas absolument droit à l'abstention en tant que telle. Donc il faut démêler entre les bulletins nuls et autres raisons.
Mais manifestement, les bulletins nuls n'ont pas été comptabilisés dans les chiffres avancés pour évaluer et annoncer le taux de participation.
Oui, on finira par les avoir, parce qu'on ne peut pas nous faire cela, on ne peut pas nous faire injure de nous priver de ce que la Cour constitutionnelle a retenu au finish comme bulletin nul. Elle a le devoir de le faire. Et entre le nombre d'inscrits, le nombre de votants effectifs, il y a un taux résiduel de bulletin nul. Après, chacun y met ce qu'il veut.
C'est ça.
Et ça peut être un vote protestataire qui a été mis ainsi, ça peut être une indécision face au choix, qu'il soit multiple ou restreint. Et ça peut être aussi un manque d'assurance, une certaine méconnaissance des techniques de vote qui font que les bulletins sont invalidés.
Et puis, il y a tous ceux qui ne sont pas allés voter.
Et voilà. Et ensuite, il y a tous ceux qui ne sont pas allés voter. Là aussi, il faut pouvoir désagréger entre ceux qui répondaient au mot d'ordre de boycott de l'opposition ceux qui étaient un peu lassés de cette querelle ne savaient plus trop à quoi s'en remettre ou avaient peur. Et parmi ceux qui avaient peur, il n'y avait peut-être pas que des gens de l'opposition, il y avait probablement aussi des partisans du camp présidentiel qui, autant, n'ont pas trouvé de raison d'aller avaliser quelque chose qui pouvait se faire sans eux ou avaient carrément peur de s'exposer davantage le jour du scrutin.
Alors,
ce qu'il faut retenir, c'est que le Bénin, quand même, chute de taux de participation qui ont été en pointe en 95 à 76%, en 1999 à 56%, ou, 76-110%, le Bénin avait quand même des records substantiels de participation. Et ça, c'est un fait notable que aujourd'hui, le taux soit en berne.
Beaucoup d'observateurs ont parlé d'élections sans électeurs. Est-ce qu'on peut parler un peu, est-ce que vous partagez ce sentiment?
Bon, c'est une formule séduisante.
C'est une formule, oui, c'est sûr.
Oui, et puis les chiffres.
Mais qui traduit peut-être la réalité politique en cours dans le pays, non?
Oui, quelque part, il y a une désaffection. Il n'y a pas eu, je le disais tantôt, fatalement, il s'est probablement trouvé également au rang des partisans du pouvoir actuel, des non-participants au scrutin.
C'est ça. Alors, on va explorer, je dirais, la réalité de cette crise en cours, hein, parce qu'il y a les élections, mais les élections dans un contexte de crise, et une crise qui se prolonge. Alors, au lendemain de ces élections, les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boniayi ont lancé un ultimatum de 24 heures au président Patrice Talon pour qu'il tire les conclusions et les enseignements de ce scrutin, ultimatum rejeté par la présidence. Alors, dites-moi, Joël Ataïk-Grébé, avec une très faible participation à ces élections, et aussi du fait des divers incidents, y compris des incidents violents qui ont été relevés, est-ce que le président Talon ne disposait pas d'arguments suffisants pour suspendre ce processus et créer les conditions d'un retour au dialogue avec les différentes forces politiques?
Je respire profondément dans la mesure où ce ultimatum vient d'anciens présidents de la République.
Oui.
Exactement de ceux qui ont. Et je ne sache pas que dans les prérogatives du chef de l'État au Bénin, en l'état de la Constitution, de tels pouvoirs lui soient conférés.
Oui.
Certes, il y a l'article 68 qui lui permet de prendre une ordonnance, mais une ordonnance, ça veut dire le dessaisissement du pouvoir législatif dans un laps de temps donné. Ça pourrait être le fait du prince, alors.
En cas de crise grave ou de péril majeur, le président peut prendre des dispositions exceptionnelles, non?
Oui, en partie. Et le président Talon a eu beau jeu de dire, ben, si vous me laissez m'engouffrer dans cette voie, ça voudrait dire que quand ça m'arrangerait, notamment pour me prolonger au pouvoir, je pourrais également recourir à cela. C'est comme une boîte de Pandore. Donc moi, j'essaie de me garder personnellement, et même avant cette crise, et pour d'autres situations, notamment celle de la mise en œuvre du budget de l'État. D'autres chefs d'État, avant M. Patrice Talon, ont cru devoir recourir à ce mécanisme.
Oui.
C'est le 49-3 français qui donne des pouvoirs exceptionnels au président de la République, effectivement, mais qui consacre le détachement de l'Assemblée nationale. On ne devrait jamais encourager ce détachement de la représentation nationale, à mon avis.
Oui.
Maintenant, la Cour constitutionnelle est fondée pour annuler les élections selon les critères donnés. C'est pas forcément un pouvoir discrétionnaire, mais c'est à la mesure de ce qu'elle reçoit du terrain, des violences, de l'influence déterminante des 10 incidents ou de certains résultats traficotés, qu'elle est en mesure d'annuler des scrutins. Et par le passé, elle s'en est pas privée, notamment en 1995, pour faire reprendre les élections, notamment à Cotonou et dans une partie certaine colonne du Bénin.
Alors, il faut dire que les élections elles-mêmes étaient contestées initialement, avant même qu'elles aient eu lieu, du fait de l'exclusion des partis de l'opposition de cette compétition. On va se tourner vers notre confrère qui est à Dakar, Alpha Bokar Kane. Alpha Bokar Kane, bonjour.
Bonjour Francis.
journaliste à AI Radio, hein, vous êtes spécialiste des relations internationales. Vous avez écouté notre grand témoin Joël Ataï-Grégbé. Un premier commentaire sur cette situation particulière en cours au Bénin.
Oui, je dois dire quand même que je suis un peu surpris par l'analyse quelque peu froide de toutes les personnalités que je viens, vos invités que je viens d'entendre.
Notre invité, il n'y en a qu'un, hein, c'est le grand témoin.
Oui, je ne sais pas s'il est embarrassé ou s'il est un peu gêné, mais les choses sont claires. On ne peut pas organiser une élection législative dans les conditions que nous connaissons tous. On se retrouve avec un taux de participation de 27%, même si c'était un taux de 30%. Mais le président doit en tirer les conclusions. C'est un désaveu de l'électorat, d'autant que depuis 1990, on n'a jamais vu des élections avec un taux de participation aussi faible. Donc le président doit immédiatement en tirer les conclusions. Peut-être qu'il n'ira pas jusqu'à démissionner ou organiser des élections présidentielles anticipées, parce qu'il scierait la branche sur laquelle il est assis. Mais manifestement, cette nouvelle assemblée, cette nouvelle législature a un problème de légitimité. Et le président Talon, je ne sais pas comment il va faire pour gouverner pendant tout le reste de son mandat. Et pour nous, ici, en tout cas, vu de Dakar, les choses sont très claires. Le président doit en tirer les conclusions si c'est un démocrate. Maintenant, si ce n'est pas un démocrate, il essaiera par divers mécanismes de se maintenir au pouvoir et de tenter de gouverner difficilement avec des crises en plus finir. Oui. Maintenant, si la population béninoise joue l'affaire comme le font les Soudanais ou les Algériens, en occupant la rue, en demandant la démission du président ou le départ du régime, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, encore en Afrique, on est dans des problèmes, on laisse faire jusqu'à ce que ça dégénère et après tout le monde vient jouer aux sapeurs-pompiers.
D'autant que les manifestants qui étaient dans la rue ce jeudi réclamaient justement la démission du président.
C'est évident. Tout démocrate devrait tirer ce type de conclusion. Maintenant, bon, qu'on parle, je ne comprends pas qu'on puisse parler de bulletins nuls ou de bulletins ou de gens qui se seraient abstenus parce qu'il y a des violences et tout ça. On aurait compris s'il y avait 50, 51, 52 ou 48%. Bon, encore ça passe, mais quand même, franchement, 27%. Soyons sérieux.
Alpha, on va devoir marquer une pause, mais avant cela, je vais faire réagir Joël Ataï-Grégbé. À ce que vous soulevez, on entend bien dans votre intervention, Alpha, ce conflit permanent en temps de crise entre légalité et légitimité, Joël Ataï-Grégbé.
Oui, nous sommes au cœur du débat, légitimité et légalité. Et je fais droit à l'observation de mon contradicteur, ou en tout cas de M. Alpha Bocard, à Dakar. Mais je ne peux être que froid et devant ces événements, essayer de garder la tête froide dans la mesure où les passions sont exacerbées. Et que malgré tout, nous avons un corpus de lois et aux dispositions par rapport auxquelles il faut essayer de tenter de se frayer un chemin. Je suis d'accord avec lui qu'il y a des risques de déflagration importants et ça passe également par des risques de répression aveugle. Et donc, deux choses qu'il ne faut pas souhaiter.
C'est ça.
Entre les deux, la voie est bien étroite au plan de la légalité, même si on constate une faiblesse de la légitimité. Les textes au Bénin n'offrent pas beaucoup de marge. Prenons le cas où les élections seraient annulées. Hein, mais c'est dans les 30 jours qu'il faudrait les reprendre. Et malheureusement, avec les mêmes acteurs. Donc, retour à la case départ.
Oui, peut-être pas avec les mêmes acteurs, ni avec. Peut-être pas justement avec les mêmes acteurs, peut-être pas avec la même charte des partis, peut-être pas avec le même code électoral, parce que c'est sur ces questions, évidemment. Bon. Ce sont ces questions qui ont alimenté la crise depuis plusieurs semaines.
Alors, ça appelle le passage par un dialogue politique pour convenir de solutions inédites. L'une d'entre elles pourrait, au point où nous en sommes, être la révision de la Constitution, parce que nous sommes à 15 jours de la fin du mandat du Parlement.
Joël Ataï-Grégbé.
Ça pourrait être la voie. Oui.
On va devoir marquer une pause. Vous allez reprendre votre propos, excusez-moi, hein, c'est le chronomètre qui l'impose. On revient dans deux minutes, tout de suite après la pause.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique, présenté par Francis Laloupo. Le débat.
avec notre grand témoin invité depuis Cotonou au téléphone, Joël Ataï-Guelegbe, expert en communication et gouvernance, président de l'association béninoise Nouvelle Éthique. Et notre confrère invité dans cette édition, il est dans les studios BBC Afrique à Dakar, Alpha Bocar Khan, journaliste à e-radio, spécialiste des relations internationales. Joël Ataï-Guelegbe, pardonnez-moi, vous allez pouvoir reprendre votre propos. Vous disiez, voilà, il y avait des pistes possibles, hein, un dialogue national éventuellement, une révision de la Constitution, c'est une des pistes possibles. En tout cas, voilà, pour sortir de la crise, on y revient, tout à l'heure on parlera davantage encore des solutions possibles de sortie de crise, mais je vous laisse prolonger ce propos, s'il vous plaît.
Oui, alors quand j'en viens là, ça indique qu'il faut des acteurs qui manifestent tous la volonté de passer par ce chemin. Et s'il n'y a pas ce minimum, alors il y a lieu de désespérer, et parce que aujourd'hui, il n'y a aucune disposition qui permette d'annuler une élection au Bénin au motif que le taux serait bas. Par le passé, le Bénin s'est permis d'annuler des élections avec un président qui fut élu à 84%. C'était en 1968. Quelqu'un a été élu à 84%, n'a pas été installé.
68, c'était quel président, Zissou?
Le président, le docteur Albert Adjou.
Albert Adjou, c'est ça.
Qui n'a jamais été installé au motif, justement, que le taux de participation était de 26%. Mmh. Je ne souhaite pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais l'arbitrage est intervenu de la part des militaires à l'époque qui ont fabriqué le monstre à trois têtes, le conseil présidentiel à trois présidents.
Oui. Et qui a conduit au coup d'État de 72.
L'État militaire. Mmh. Alors, donc, le Bénin doit réinventer quelque chose aujourd'hui. Mmh. Les têtes en eux-mêmes ne nous donnent pas la solution.
Vous le souhaitez?
C'est le bon vouloir des acteurs politiques.
Vous le souhaitez?
Qui permettrait peut-être.
Vous souhaitez que les énergies aujourd'hui soient agglomérées pour inventer donc des solutions de sortie de crise? Peut-être qu'il est
Absolument,
temps d'ailleurs de faire...
Au bout de 29 ans, une trentaine d'années de renouveau démocratique, sommes probablement en fin de cycle ou en situation d'épuisement.
C'est ça.
Donc il faut renouveler les recettes et pouvoir avancer. Mmh. Les crises sont faites pour avancer, pour tirer des leçons et imaginer un nouveau vivre ensemble. Mmh. C'est indéniable qu'il faut retrouver les voies du dialogue.
C'est ça.
Ça dépendra de la bonne volonté des acteurs politiques en présence, je le répète, parce que quelque part, la classe politique a constitué une forme d'hypothèque assez lourde sur la vie, sur la qualité de la démocratie au Bénin, malgré les apparences que cela pouvait laisser voir.
On entend bien. Joël Ataï-Guelegbe, brusque montée des fièvres, hein, mercredi dernier à Cotonou, des incidents d'abord concentrés autour du domicile de l'ex-président Boni Yayi, où ses partisans se sont rendus pour protester contre la présence des forces de l'ordre. La rumeur avait circulé sur un projet d'arrestation de l'ex-président, rumeur démentie plus tard par le ministre de l'Intérieur. Cette situation s'est prolongée ce jeudi avec des heurts de plus en plus violents entre forces de l'ordre et manifestants. Des tirs à balles réelles ont fait des morts et des blessés. Quelle réflexion vous inspire ces événements plutôt rares au Bénin?
Beaucoup de tristesse, beaucoup de révolte, mais il faut garder la tête froide et espérer que la raison prévale et qu'on retrouve fondamentalement le sens du respect des institutions, le sens du civisme, mais également le sens du dialogue. Mmh. On n'a pas d'autre fait que de se parler, d'essayer de serrer les problèmes pour avancer. Oui. C'est déplorable qu'on cherche à les régler par la force, tant la force des armes que la force de la rue à tout prix. On ne sait pas comment ça se termine quand ce type de voie qui est choisie.
Des incidents rarissimes au Bénin quand même, Alpha Bocar Khan. Et qu'est-ce que vous pensez de cette réponse sécuritaire à des manifestants? Beaucoup d'observateurs ont parlé de réponse disproportionnée des forces de l'ordre face à ces manifestations. Qu'en pensez-vous?
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse et je pense que le président Patrice Talon montre à la face du monde qu'il a très mal géré cette affaire. Très mal géré depuis le début avec cette réforme donc sur le code électoral et la loi sur les partis politiques avec cette histoire de certificat de conformité, etc. Et aujourd'hui, on organise un scrutin, on en arrive au résultat que l'on connaît et on se lance dans une répression avec des tirs à balles réelles, etc. Donc depuis le début, moi je pense que la gestion de Patrice Talon dans cette affaire quand même, elle pose problème. il n'a pas réussi à créer un climat apaisé avec des élections inclusives. On ne va pas lui remettre forcément toute la responsabilité, parce que l'opposition aussi, il y a eu des discussions, ils ne sont pas arrivés à s'entendre. Mais quand même, il est le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, garant de l'ordre public. On ne peut pas créer des situations qui peuvent dégénérer. Aujourd'hui, comme le disait Joël tout à l'heure...
Joël Lataï-Guédébé.
Exactement. La classe politique béninoise est attendue sur le dialogue. Mais pour que ce dialogue puisse avoir lieu, il faut que le président Patrice Talon lui-même puisse d'abord l'organiser et le vouloir, et puisse décliner une feuille de route pour qu'on sache comment on sort de cette histoire-là. Mmh. Parce qu'on ne voit pas de solution s'il n'y a pas de discussion entre les différents acteurs oui. de la vie politique. Évidemment, les textes sont ce qu'ils sont. Mais il y a des marges de manœuvre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des solutions peut-être extrêmes, oui. qu'il peut être amené, lui, à partir ou à organiser des élections présidentielles. Je ne suis pas sûr qu'il va le faire. Mmh. Mais on peut quand même discuter et voir dans quelle mesure on peut dissoudre cette Assemblée, oui. Revenir un peu sur cette loi qui a été prise en octobre 2018, donc à 6 mois avant les élections, ce qui est quand même en contradiction avec les règles de la CEDEAO.
La CEDEAO, oui.
Voilà, et remettre à plat le système et arriver à discuter pour remettre les choses dans les rails. Et ça, peut-être que c'est une sortie de crise pour lui qui lui permettra d'être grandi. Mais sinon, politiquement, pour lui, la crise actuelle, c'est terminé pour lui. Sa carrière politique, en tout cas à la tête du Bénin, est compromise dans cette situation-là. Maintenant, je ne sais pas comment il va s'en sortir, parce que jusqu'ici, quand même, il n'a pas fait preuve de grande habileté politique. Peut-être que parce que ce n'est pas un homme politique avisé, mais cette crise et cet affrontement indirect entre lui et le président Yahya Boni aussi pose problème dans un système politique qui est verrouillé et que lui-même a très mal géré. Il a été poussé à la faute quelque peu par Yahya Boni.
C'est ça. Joël Ataï-Guédébé, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse sécuritaire ? Parce qu'on pourrait penser que le pouvoir a choisi le rapport de force, un rapport de force avec ceux qui s'opposent à son projet politique. Hein.
J'espère sincèrement que non, et il ne sera jamais question d'encourager des réponses de type sécuritaire ni des réponses de type populiste. Les partis politiques sont des institutions qui participent à l'encadrement des citoyens, à la qualité de la vie. Il vaut mieux les avoir au sein d'un hémicycle.
Mais il y a ces scènes, Joël Ataï-Guédébé, il y a ces scènes qu'on a observées mercredi, jeudi à Cotonou. On voit bien que la réponse sécuritaire est très forte. On se serait attendu, je veux dire. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez du silence du chef de l'État ? Parce qu'on n'entend pas hein, face à ces incidents survenus dans le pays pendant et au lendemain des législatives.
C'est quelqu'un de très divers. Le silence est relatif. Le Conseil des ministres est tenu hier et a pris ou a fait un peu le point de la situation, sans plus évoquer les solutions qu'il préconise.
Mais au sommet de l'État, on affirme même qu'il n'y a pas de crise dans le pays. On a entendu le ministre des Affaires étrangères tenir conférence cette semaine et affirmer aux yeux du monde qu'il n'y a pas de crise en cours au Bénin.
Je lui laisse l'exclusivité de cette affirmation. Chacun de nous a quand même la vérité effective des faits sous les yeux.
Mais ce discours politique ne vous inquiète pas, parce que quand un pouvoir commence à nier, à faire preuve de déni, je veux dire, de déni de la réalité.
De la réalité.
Est-ce qu'il ne faut pas s'en inquiéter ?
Oui, c'est dangereux pour un pouvoir politique de nier l'évidence, hein, et de s'enfermer dans les flatteries, dans un certain nombre de certitudes, ou dans celle de pouvoir abuser de la force. Au grand jamais, ce n'est pas notre thèse au niveau de la société civile. Et nous continuons à encourager les acteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et à retrouver au plus tôt la voie des discussions. Oui. Nous avons encore quelques marges qui sont exploitables. Mais on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale au Bénin. Sinon, on change de constitution. C'est un peu les pièges qui sont là. Il y aura des tractations certainement par-dessous entre les uns et les autres. Il y a quelques intermédiaires qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais la voie est très étroite et ça appelle réellement à beaucoup de discernement. Et nous ne pouvons pas avoir les mêmes regards. Je prends la loi controversée. Elle a été votée malheureusement avec l'assentiment de l'ensemble de l'opposition, moins une voix. Et nous étions évidemment, nous avons critiqué cela, nous l'avons déploré. Et même si cela est intervenu à la limite du protocole fixé par du protocole additionnel de la CEDEAO, c'était dans les délais. Mais la mauvaise appréciation a été de faire chevaucher la mise en œuvre et la finalisation de cette loi avec le calendrier électoral. et nous mettant dans une situation inexplicable, effectivement. Oui. Et en amont, la Sénat aurait pu aider à faire jouer la concertation politique, oui, le dialogue politique, le cas échéant. Et ça n'a pas eu lieu. Il faut désespérer de cela. Mais
il y a eu la loi, mais il y a eu surtout, je dirais, cette botte secrète qui a été sortie au dernier moment pratiquement, qui est ce fameux certificat de conformité qui n'est pas inscrit dans la loi.
Oui, qui n'est pas explicitement inscrit au niveau des pièces à fournir.
Oui.
Mais la Cour constitutionnelle, généralement, a un pouvoir d'interprétation assez, oui, assez large.
Oui.
Et il faut le déplorer, ça a compliqué les choses. La Cour va jurer très grand jeu qu'elle a voulu expliciter le processus, faciliter la mise en œuvre d'une loi qui est devenue effectivement inexplicable à un moment donné. Ça maintenait en vie des partis politiques au-delà de la clôture des inscriptions, ce qui était une aberration également. Donc on a laissé passer des grossièretés, des choses qui nous ressemblent à la figure aujourd'hui.
Est-ce qu'il y en a,
on a... L'Assemblée est encore en place jusqu'au 15 mai, mais c'est possible de faire quelque chose. Il y a cette voie de l'abrogation de l'actuelle loi ou de la correction.
C'est ça.
C'est la disposition la plus difficile d'application. Est-ce qu'on va... voilà, je ne peux pas en dire plus. C'est le bon vouloir des acteurs politiques.
Malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond, je dirais, une crise institutionnelle grave, doublée d'une crise de confiance? Parce que cette Assemblée nationale que vous évoquez, elle est fortement décriée, cette Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle également est fortement décriée. Et toute institution aujourd'hui, il y a une crise de confiance profonde entre la population, entre les citoyens et leurs institutions aujourd'hui. C'est quand même, c'est la première fois qu'on arrive à ce stade dans ce pays.
On n'en est pas loin, Il faut que les uns et les autres prennent la mesure de la situation. Je le répète, les marges de manœuvre ne sont pas très nombreuses. Sinon, ça va être le cycle manifestation, répression. C'est invivable, c'est pas du tout propice au climat des affaires et à un développement apaisé dans un pays. Et donc, il est urgent de chercher les moyens d'en sortir. Il est possible que dans les heures ou jours qui viennent, les choses soient... c'est fini. En tout cas, c'est notre souhait. Nous saurions entretenir le climat de défiantation qui est à court en ce moment. Mais la défiance n'est pas loin. Et le pouvoir gagnerait effectivement à en prendre la mesure. Pour offrir ou faire le pas qu'il lui reste éventuellement à faire.
Vous dites qu'un dialogue est encore possible.
Les partis de l'opposition, encore moins les anciens chefs d'État, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, qui ont exercé les plus hautes fonctions dans notre pays, et qui devraient pouvoir s'élever un tout petit peu au-dessus de la mêlée, quel que soit le temps auquel ils appartiennent. On ne semble pas le voir non plus actuellement.
Alors, pour aller dans le prolongement de ce que disait mon confrère Alpha Bokarkane, vous dites qu'un dialogue était encore possible, mais il faut aussi s'y aller. Un fait inédit dans une crise politique dans ce pays, on a connu plusieurs crises, on a connu des tensions politiques plutôt dans le pays depuis 30 ans, mais c'est la première fois que l'hypothèse de la destitution d'un chef d'État ou de sa démission est évoquée dans le contexte d'une crise. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est possible. Je ne sais pas si c'est...
En tout cas, c'est ce qui est réclamé dans la rue. On a rarement entendu des gens manifester depuis 30 ans à Cotonou, par exemple, ou dans les villes du Bénin, et réclamer la démission d'un chef d'État. On dit souvent, bon, on le laisse aller jusqu'au bout de son mandat.
Qu'il faut prendre en compte pour apprécier l'urgence de la situation. Je ne peux pas le souhaiter. Je suis un démocrate. Je ne veux pas non plus... être dans une application à jeûne de la loi, elle appelle différemment de part et d'autre. Donc, tant que c'est possible, il faut pouvoir aménager les lois qu'on s'est données sans aller à des compromissions répréhensibles pour le pays.
Merci.
Je le répète.
En conclusion,
il n'y a pas d'autre voie en dehors de discussions élargies et d'un effort d'humilité de part et d'autre. Pour inventer un nouveau vivre ensemble. De toute évidence, nous sommes à l'épuisement d'un cycle de compromis que les uns et les autres ne sont plus tout à fait disposés à se concéder. Ce n'est pas les risques qui ont monté par le passé non plus. À tout moment, au fait, on devrait être en alerte et cesser de se voir trop beau ou trop génial pour ce qui est de notre vie politique.
Merci.
Aujourd'hui, le Bénin se banalise avec ce type d'incident de remise en cause, effectivement.
Avoir
raison garder pour ne pas en arriver à plus grave. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez des hommes d'affaires, vous avez des investisseurs qui ont vu, qui ont leurs biens en fumée, ou alors qui ne peuvent plus déployer leurs affaires. Et c'est pas un climat à encourager du tout.
On va passer à un deuxième sujet dans cette édition, tout de suite. Avec Joël Taïb Yedegbe, notre grand témoin invité, expert en communication et gouvernance, président de l'association béninoise Nouvelle Éthique. Il est avec nous au téléphone depuis Cotonou et dans la studio BBC Afrique à Dakar, notre confrère Alpha Bokarkan, journaliste à e-radio, spécialiste des relations internationales. Parlons à présent de l'Algérie. Désormais, les contestataires en Algérie qui poursuivent leur mouvement affirment ne pas vouloir se contenter d'une demi-révolution. Ils continuent d'exiger le départ de toutes les figures du régime en place. C'est dans ce contexte que le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, par ailleurs vice-ministre de la Défense, a prononcé un discours mardi dernier pour indiquer notamment que, je cite, « l'armée assumera ses responsabilités devant l'histoire et agira en fonction de ce que permettent la Constitution et les lois de la République ». Fin de citation. Le chef d'état-major a longuement insisté sur les actions menées actuellement par la justice contre plusieurs dignitaires du régime, des actions qui ont déjà donné lieu à des arrestations et la mise en détention de plusieurs personnalités réputées proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Le discours d'Ahmed Gaïd Salah est venu confirmer aux yeux des Algériens la volonté de l'armée de prendre les commandes d'une transition dont les contours demeurent fortement controversés. Première question pour vous, Alpha Bokarkan. Alors, le gouvernement qui a été mis en place avant la démission de Bouteflika est plutôt inactif, enfin pas très actif en tout cas. Et dans ce contexte, le chef d'état-major, Gaïd Salah, est-il en train de s'imposer comme un personnage clé de la scène politique dans ce contexte de crise ?
C'est un fait. Le général Salah, aujourd'hui, est l'homme fort du système, comme on dit souvent dans ce genre de situation. Alors, la rue voulait le départ de Bouteflika. Bouteflika est parti. Aujourd'hui, il y a un face-à-face entre la rue et le général Salah, qui justement tire les ficelles, parce que c'est lui qui est à la manœuvre concernant toutes ces opérations de lutte contre la corruption, etc., les arrestations, etc. Observons très bien le rythme des arrestations. Au début, on a arrêté des hommes d'affaires ou des personnalités qui étaient proches de Bouteflika. Il y a quelques jours, on a commencé à arrêter, parce qu'à l'époque, il fallait couper les liens entre un certain nombre de personnalités, notamment des financiers, avec le régime. Aujourd'hui, que Bouteflika est parti, on arrête qui ? On arrête des hommes d'affaires qui étaient hostiles au régime et qui peuvent et qui ont les moyens de s'imposer en cas d'élection, en tout cas de s'attirer la sympathie de l'opinion publique. Et on arrête aussi des opposants. Donc on est dans un deuxième temps qui est différent du premier, de la première nature des arrestations. Ça, c'est le premier
élément. Est-ce qu'il s'agit réellement d'une opération anticorruption ou des règlements de compte ?
Non, c'est des règlements de compte. Pourquoi ? Pourquoi je le dis ? Il y a un élément central que l'opinion publique internationale a un peu occulté. Le 2 avril, le général Zeroual, qui était président de la République avant Bouteflika, fait une déclaration publique. Il dit, j'ai rencontré le général Toufik, qui était chef des services de renseignement, qui lui-même m'a fait une proposition en disant qu'il souhaite conduire la transition, l'instance qui doit gérer la transition, en accord avec Saïd Bouteflika, le frère d'Abdelaziz Bouteflika. C'est une déclaration qui est passée inaperçue. Et le discours prononcé mardi par le général Salah est très intéressant. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a un affrontement en dessous entre, d'une part, une certaine élite de l'armée dirigée par Gaïd Salah qui veut garder la main sur le pouvoir, qui veut voir même avoir, si lui-même ne peut pas être président de la République comme l'a fait Al-Sisi en Égypte, pouvoir placer en tout cas un de ses pions. Et de l'autre côté, l'ancienne garde du régime qui est proche de Bouteflika, incarnée par le général Toufik qui a été limogé en 2004 du système. Donc à la faveur justement de la montée en puissance de Gaïd Salah. Donc cet affrontement-là, je pense que c'est ça qui va déterminer l'avenir aujourd'hui. L'issue de cet affrontement va déterminer la suite des choses en Algérie. Et c'est pourquoi le général prévient en disant qu'il y a des menaces sur l'unité nationale. Bon, c'est des menaces de façade, il défend plutôt ses intérêts. Et il veut que la transition reste dans le cadre constitutionnel. Il en a tout intérêt. Parce que le jour où on sort de ce cadre institutionnel, en mettant en place des institutions ad hoc chargées de gérer la transition, c'est fini pour lui, c'est fini pour l'armée. Donc l'affrontement aujourd'hui, la question centrale, elle est là. Et est-ce qu'il va tenir maintenant jusqu'au 4 juillet, date à laquelle l'élection va avoir lieu? Ça, c'est l'opinion publique et la rue qui le déterminera.
En tout cas, on a le sentiment que Gaïd Salah jette un peu en pâture au moment de contestation cette opération dite de lutte contre la corruption. Il parle de dossiers de corruption très lourds qui seraient à la disposition du ministère de la Défense nationale, des dossiers portant sur des montants astronomique, dit-il, et il a précisé que ces dossiers, dont il a pris connaissance personnellement, ont été mis à la disposition de la justice. Une justice, dit-il, aujourd'hui libérée de diverses pressions. Joël Ataï-Guedebé, et qu'est-ce que vous pensez de cette armée qui, tout d'un coup, voilà, est-ce qu'elle est crédible dans ce nouveau rôle de grand nettoyeur ?
Non, elle ne le sera jamais. Et malheureusement, elle était à la table pendant que le régime du FLN perdurait au pouvoir. Tout le monde connaît le cas Bendour et toute la corruption généralisée autour des hommes en uniforme, des douaniers et j'en passe.
C'est ça.
Donc le général Salah aura bien du mal à se donner une image vertueuse pour espérer récupérer la situation. Il n'a pas tort de tenter, on voit tout. Mais fatalement, c'est une course de vitesse entre plusieurs tenants d'un même système au fond. Et qui essayent de se sauver d'affaires face à la détermination de la rue, qui n'ont pas vu venir, qui semblent se maintenir. La question de savoir si d'ici 2 mois, jusqu'au 4 avril, il pourrait émerger en dehors de ce cercle quelqu'un qui, dans le cadre d'élections effectivement ouvertes, arrive à incarner le renouveau. Sinon, ça va être du replâtrage.
Bien sûr.
En attendant, peut-être mieux pour le peuple algérien.
Merci Joël Ataï-Guedebé.
On ne peut pas instrumentaliser la lutte contre la corruption dans un tel contexte. Mm-hmm. Ce n'est pas du tout crédible pour quelqu'un qui a été l'assistant direct du président Bouteflika.
Alpha Bokakane, juste quelques mots pour conclure sur ce sujet. Comment le mouvement de contestation va-t-il désormais gérer cette équation nouvelle, celle de l'implication forte de l'armée dans une période de transition, une période de transition qui n'est pas acquise d'ailleurs parce qu'elle est controversée par une partie de la classe politique?
Ce qui conforte le général Salah dans sa démarche, c'est que la contestation en Algérie comporte 2 faiblesses. La première faiblesse, c'est que il demande à la contestation, en tout cas les manifestants, demandent à sortir du cadre légal et constitutionnel pour imposer une transition collégiale ou ad hoc, en tout cas des institutions qui remettraient en place tout le système. Ça, c'est une première faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est qu'il n'y a aucun leader qui émerge de soi de la société civile ou en tout cas des partis de l'opposition. C'est un problème parce qu'il faut que quelqu'un puisse à un moment ou à un autre capitaliser cette colère de la rue ou en tout cas cette contestation pour pouvoir peser sur le système et incarner cette légitimité. On l'a vu au Venezuela avec Juan Guaido parce que pendant que le président Maduro et tout ça étaient là et qu'il n'y avait personne, c'était compliqué à régler. Mais maintenant qu'il y a un leader qui émerge, le rapport de force, il change. Parce que même ceux qui veulent soutenir l'opinion et tout ça, ils vont soutenir qui? L'opinion, c'est qui? Les manifestants, c'est qui? C'est tout ça, c'est très compliqué. Et sur la base de ces 2 faiblesses, je pense que Gaïd Salah, il garde encore la main parce qu'il tient le système. Oui. Parce que déjà, comment on peut expliquer dans un pays organisé que c'est le ministère de la Défense, c'est-à-dire l'armée, mais qui lance des procédures d'arrestation?
C'est ça.
Il y a quelque chose qui cloche. Où sont les magistrats? Où est la police? Où sont les services, les organes de contrôle chargés de gérer ce genre de problème? Voilà le premier problème. Et c'est ça qui fait que Gaïd Salah contrôle encore le système. Et à un moment ou à un autre, il l'a déjà fait dans son discours de mardi, en tapant du poing sur la table, en disant qu'il n'y aura aucune voie de solution en dehors de la Constitution. C'est un discours d'autorité. Maintenant, on va voir ce que cela va donner. Il y a eu une manifestation aujourd'hui encore avec la vendredisation des manifestations.
La vendredisation,
La vendredisation, c'est ça, parce que tous les vendredis...
Vous avez dit le bon mot, puisque maintenant on dit vendredi à Alger, voilà, pour manifester.
Exactement.
Et cela continue, c'est la 11e semaine, bien sûr.
Maintenant, est-ce qu'il va tenir jusqu'au 4 juillet? C'est ça la question.
Le 4 juillet, date prévue pour la présidentielle.
C'est ça, mais s'il n'y a pas de leader, il n'y a personne, les militaires vont continuer à tenir le système.
Merci.
C'est dommage.
Merci Alpha. Alors, sans transition, on va dire un mot sur la journée mondiale de la presse. Cette année, cette journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée du 2 au 3 mai à Addis Abeba. L'occasion pour de nombreux acteurs présents d'échanger sur des questions d'actualité ainsi que sur les menaces actuelles et les progrès réalisés en matière de liberté de la presse. Alors, le thème général de cet événement, c'est le rôle des médias dans les élections et la démocratie. Joël Ataï-Guélébé, alors vous êtes évidemment très intéressé par ces questions évidemment de liberté de la presse, 30 ans après le déclenchement des processus de démocratisation qui ont été marqués, on le sait, par l'action déterminante de la nouvelle presse privée. Le constat est plutôt amer et de nouveaux experts de la question estiment que, je cite, « la liberté de la presse semble de plus en plus compromise, ce qui entrave sa participation et à la consolidation des acquis démocratiques ». Est-ce que vous partagez ce constat ?
Oui, oui, il faut le déplorer. Il faut déplorer le cours actuel des choses. La liberté de la presse n'a pas uniquement aidé la démocratie. Elle n'a pas toujours aidé à sa consolidation et à travers des comportements répréhensibles des acteurs eux-mêmes. À travers la structuration de la presse et qui manque cruellement d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, des partis ou des forces politiques, mais également vis-à-vis des forces économiques et commerciales. Mmh. Donc cette liberté est fortement entravée aujourd'hui dans un contexte apparemment pluraliste. Mmh. Et ensuite, il y a des lois, des dispositifs divers qui, même s'ils mettent de côté la privation des peines de liberté et s'agissant des délits, ne représentent pas moins une chape de plomb sur la liberté elle-même de la presse. Merci. Et l'apparition ou le développement des médias électroniques ou de l'Internet, pour faire court, crée une situation tout à fait nouvelle d'explosion de la liberté, mais malheureusement de l'irresponsabilité. Mmh. Et donc les sanctions qui vont à l'encontre de ce type de défiance donnent l'impression ou ne peuvent que conduire à une espèce de remise en cause de la liberté et chèrement acquise. Il appartient désormais aux acteurs de prendre la mesure de la situation, de voir comment réinventer également l'appropriation de ces médias, la mise à jour par rapport à ce contexte-là, pour réaliser comme des éléments dynamiques, des fers de lance de la démocratie, parce qu'une démocratie est inconcevable sans des médias libres et indépendants, et pour pas dire responsables.
Merci beaucoup. Alpha Bocacal, une minute de... Un regard sur la presse 30 ans après le déclenchement des processus de démocratisation.
La presse a joué un rôle fondamental, si je pense, ne serait-ce que dans un pays comme le Sénégal, la presse a joué un rôle majeur dans les différentes alternances qui ont eu lieu, notamment la première en 2000 avec l'arrivée au pouvoir du président Blaise Wade. Mais aujourd'hui...
Il faut dire que la presse privée au Sénégal existait bien avant 1990, hein.
Oui, oui, mais là, quand même, c'est 99, 98, 99, 2000, on a quand même assisté au développement surtout de la radio, avec une certaine libéralisation du secteur de l'audiovisuel, qui a permis donc que des radios puissent se positionner sur l'échiquier politique et faire un travail de contrôle, justement, des opérations électorales en donnant les résultats séance tenante. C'était quand même inédit en 2000. Et c'est ça qui a permis un peu aux populations d'avoir tout de suite les tendances sur les résultats, etc. Bon, il y a d'autres facteurs, le débat politique, le débat public, le fait de pouvoir mettre en contradiction les élites au pouvoir avec l'opposition, etc. Tout cela aussi a contribué à faire émerger une conscience citoyenne des questions démocratiques, etc. Donc la presse joue un rôle majeur. Mais aujourd'hui, je pense que il y a un point sur lequel il faudrait insister, l'indépendance des médias, mais aussi leur indépendance économique, le financement des médias. C'est une faiblesse.
C'est ce que disait Joël
Ataï-Guélébé. Justement, l'environnement économique aujourd'hui devrait permettre aux groupes de presse de bénéficier de fonds, en tout cas pour pouvoir fonctionner correctement, de fonds non seulement pour le fonctionnement des organes eux-mêmes, mais aussi pour la formation, et pour avec des moyens d'investigation et des moyens de travail peu plus conséquents. C'est un défi majeur sur lequel la presse en Afrique devra faire un effort.
Merci beaucoup de ce commentaire très concis, hein, Alpha Bocacal. On va pouvoir écouter à présent le message de nos amis internautes, message recueilli et livré par Didier Ladislas Lando tout de suite.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débatbbcafrica.
Bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Bénin Gabvoundaba Bourgeois estime que c'est horrible ce que fait Patrice Talon. Pour lui, la démocratie béninoise ne mérite pas une telle situation. Jérôme Sédégan Hunti, de son côté, affirme qu'il n'y a plus de société civile digne du nom au Bénin, car l'argent et la politique ont pris le dessus. Albert Sangaré, quant à lui, veut savoir à quoi joue le pouvoir Talon. Notre internaute d'Abidjan se demande si le président Talon aurait pu accéder au pouvoir si son prédécesseur avait fait pareil. Algérie, Christian Djerab considère que les dirigeants actuels font une chasse aux sorcières dirigée contre les proches de Bouteflika. Pour lui, il ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Le plus important est que Bouteflika soit parti. Liberté de la presse pour Charles Bazema tant que certains journalistes se laisseront corrompre et que les pouvoirs politiques auront une certaine presse acquise à leur cause. La presse aura du mal à jouer le rôle qui est le sien dans la consolidation des acquis démocratiques. Merci à Fulciano Sabadogo, Fidel Charo Fidel et Fréjus Akoumia qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/debat-bbc-africa-africa-radio et sur Twitter à @debat-bbc-africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous également, Didier Ladislas Lando, merci beaucoup. C'est la tradition, Joël Taïk Guedegbe, une conclusion générale. Peut-être répondre à la question de cet internaute, cet auditeur qui dit « il n'y a plus de société civile digne de ce nom au Bénin ».
Je trouve qu'il y aura toujours une société civile, que les actuels acteurs soient corrompus ou pas, parce que c'est dans l'essence même de la démocratie et que une société civile existe au sein des partis politiques forts. Et je crois que nous devons un peu en finir avec les anathèmes. Et l'explosion des réseaux sociaux permet de dire du n'importe quoi, mais voilà, c'est la rançon de la démocratie et il faut déplorer encore une fois que les pouvoirs, dans un cadre électoral, se donnent le droit de suspendre les réseaux sociaux. C'est une évolution préoccupante aujourd'hui des processus électoraux dans nos pays qui peut-être sont une entrave à la liberté de la presse.
Ce qui s'est passé au Bénin d'ailleurs le 28 avril. Hein.
Et que nous avons déploré.
Alors, comme il reste quelques secondes, je voulais juste un coup de réflexion sur ce classement annuel de Reporters sans frontières, classement de l'état de la presse dans le monde. Le Bénin est classé cette année 96e. Sur 180 pays, 12 points en moins par rapport à l'année précédente. Qu'est-ce que ça vous inspire en quelques secondes ?
C'est beaucoup de tristesse, mais en même temps beaucoup de réserve, parce que les critères utilisés ne rendent pas forcément compte de ce que nous appellerions la liberté de la presse. Si quelqu'un contrevient à des lois communes, à des dispositions communes, on ne peut pas non plus prôner l'impunité.
On aurait souhaité meilleur classement quand même.
Il y a des lois.
Vous aurez souhaité meilleur classement.
Meilleur et j'ai beaucoup insisté sur les responsabilités, le manque de pluralisme de la presse dans nos pays. Ce sont les défis qui doivent pouvoir mieux nous édifier par rapport à la qualité de la liberté de la presse. Mais ce n'est pas un classement banalisé. Le Bénin pourrait faire nettement mieux en termes qualitatifs.
Merci beaucoup, Joël Ataï Guedegbe. Merci d'avoir été notre invité dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Vous êtes expert en communication et gouvernance, président de l'association béninoise Nouvelle Éthique. Merci à notre confrère Alpha Bokarkan, journaliste à e-radio, animateur de l'émission La Valise Diplomatique sur e-radio et spécialiste des relations internationales. L'émission a été réalisée à Paris par François Richard, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Bon week-end à toutes et à tous à l'écoute de nos radios partenaires.